Chapitre 10. Pendant cette singulière maladie qui ravage les races à bout de sang, de soudaines accalmies succèdent aux crises. Sans qu'il puisse expliquer pourquoi, Des Esseintes se réveilla tout valide un beau matin. Plus de toux déracinante, plus de coins enfoncés à coups de maillet dans la nuque, mais une sensation ineffable de bien-être, une légèreté de cervelle dont les pensées s'éclaircissaient, et d'opaques et glauques devenaient fluides et irisées, de même que des bulles de savon de nuances tendres. Cet état dura quelques jours, puis subitement, une après-midi, les hallucinations de l'odorat se montrèrent. Sa chambre embauma le frangipane. Il vérifia si un flacon ne traînait pas à déboucher. Il n'y avait point de flacon dans la pièce. Il passa dans son cabinet de travail, dans la salle à manger. L'odeur persista. Il sonna son domestique. « Vous ne sentez rien ? » dit-il. L'autre renifla une prise d'air et déclara ne respirer aucune fleur. Le doute ne pouvait exister. La névrose revenait une fois de plus sous l'apparence d'une nouvelle illusion des sens. Fatigué par la ténacité de cet imaginaire arôme, il résolut de se plonger dans des parfums véritables, espérant que cette homéopathie nasale le guérirait, ou du moins qu'elle retarderait la poursuite de l'importune frangipane. Il se rendit dans son cabinet de toilette. Là, près d'un ancien baptistère qui lui servait de cuvette, sous une longue glace en fer forgé, emprisonnant ainsi que d'une margelle argentée de lune l'eau verte et comme morte du miroir, des bouteilles de toute grandeur, de toute forme, s'étageaient sur des rayons d'ivoire. Il les plaça sur une table et les divisa en deux séries, celle des parfums simples, c'est-à-dire des extraits ou des esprits, et celle des parfums composés, désignés sous le terme générique de bouquet. Il s'enfonça dans un fauteuil et se recueillit. Il était depuis des années habile dans la science du flair. Il pensait que l'odorat pouvait éprouver des jouissances égales à celles de l'ouïe et de la vue, chaque sens étant susceptible, par suite d'une disposition naturelle et d'une érudite culture, de percevoir des impressions nouvelles, de les décupler, de les coordonner, d'en composer ce tout qui se constitue une œuvre, et il n'était pas en somme plus anormal qu'un art existât en dégageant d'odorants fluides, que d'autres en détachant des ondes sonores ou en frappant de rayons diversement colorés la rétine d'un œil. Seulement, si personne ne peut discerner, sans une intuition particulière développée par l'étude, une peinture de grand maître d'une croûte, un air de Beethoven d'un air de Clapisson, personne non plus ne peut, sans une initiation préalable, ne point confondre au premier abord un bouquet créé par un sincère artiste avec un pot pourri fabriqué par un industriel pour la vente des épiceries et des bazars. Dans cet art des parfums, un côté l'avait entre tous séduit, celui de la précision factice. Presque jamais, en effet, les parfums ne sont issus des fleurs dont ils portent le nom. L'artiste qui oserait emprunter à la seule nature ces éléments ne produirait qu'une œuvre bâtarde, sans vérité, sans style, attendu que l'essence obtenue par la distillation des fleurs ne saurait offrir qu'une très beau et lointaine, très vulgaire analogie avec l'arôme même de la fleur vivante et pendant ses effluves en pleine terre. Aussi, à l'exception de l'inimitable jasmin qui n'accepte aucune contrefaçon, aucune similitude, qui repousse jusqu'aux à peu près, et toutes les fleurs sont exactement représentées par des alliances d'alcoolat et d'esprit, dérobant au modèle sa personnalité même, et ajoutant ce rien, ce ton en plus, ce fumet capiteux, cette touche rare qui qualifie une œuvre d'art. En résumé, dans la parfumerie, l'artiste achève l'odeur initiale de la nature, dont il taille la senteur, et il la monte ainsi qu'un joaillier épure l'eau d'une pierre et la fait valoir. Peu à peu, les arcanes de cet art, le plus négligé de tous, s'étaient ouverts devant des esseintes qui déchiffraient maintenant cette langue variée, aussi insinuante que celle de la littérature, ce style d'une concision inouïe, sous son apparence flottante et vague. Pour cela, il lui avait fallu d'abord travailler la grammaire, comprendre la syntaxe des odeurs, se bien pénétrer des règles qui les régissent et, une fois familiarisé avec ce dialecte, comparer les œuvres des maîtres, des Atkinson et des Lubin, des Chardin et des Violet, des Legrand et des Pièce, et désassembler la construction de leurs phrases, peser la proportion de leurs mots et l'arrangement de leurs périodes. Puis, dans cet idiome des fluides, l'expérience devait appuyer des théories trop souvent incomplètes et banales. La parfumerie classique était en effet peu diversifiée, presque incolore, uniformément coulée dans une matrice fondue par d'anciens chimistes. Elle radotait, confinée en ses vieux alambics, lorsque la période romantique était éclose et l'avait elle aussi modifiée, rendue plus jeune, plus malléable et plus souple. Son histoire suivait pas à pas celle de notre langue. Le style parfumé Louis XIII, composé des éléments chers à cette époque, de la poudre d'iris, du musc, de la civette, de l'eau de myrte, déjà désigné sous le nom d'eau des anges, était à peine suffisant pour exprimer les grâces cavalières, les teintes un peu crues du temps que nous ont conservé certains des sonnets de Saint-Amand. Plus tard, avec la myrrhe, l'oliban, les senteurs mystiques puissantes et austères, l'allure pompeuse du grand siècle, les artifices redondants de l'art oratoire, le style large, soutenu, nombreux, de Bossuet et des maîtres de la chaire, furent presque possibles. Plus tard encore, les grâces fatiguées et savantes de la société française sous Louis XV trouvèrent plus facilement leur interprète dans la frangipane et la maréchale qui donnèrent en quelque sorte la synthèse même de cette époque. Puis, après l'ennui et l'incuriosité du Premier Empire, qui abusa des eaux de Cologne et des préparations au romarin, la parfumerie se jeta derrière Victor Hugo et Gautier vers les pays du soleil. Elle créa des orientales, des sélames fulgurants d'épices, découvrit des intonations nouvelles, des antithèses jusqu'alors inosées, tria et reprit d'anciennes nuances qu'elle compliqua, qu'elle subtilisa, qu'elle assortit, et elle rejeta résolument enfin cette volontaire décrépitude à laquelle l'avaient réduite les mâles herbes, les boileaux, les andrieux, les bahours lormions, les bas distillateurs de ses poèmes. Mais cette langue n'était pas demeurée depuis la période de 1830 stationnaire. Elle avait encore évolué, et se modelant sur la marche du siècle, elle s'était avancée parallèlement avec les autres arts. C'était elle aussi pliée aux vœux des amateurs et des artistes, se lançant sur le chinois et le japonais, imaginant des albums odorants, imitant les bouquets de fleurs de Takeoka, obtenant par des alliances de lavande et de girofle l'odeur du rondelletia. Par un mariage de patchouli et de camphre, l'arôme singulier de l'encre de Chine, et par des composés de citron, de girofle et de néroli, l'émanation de l'Auvénia du Japon. Des esseintes étudiaient, analysaient l'âme de ces fluides, faisaient l'exégèse de ces textes. Il se complaisait à jouer pour sa satisfaction personnelle le rôle d'un psychologue, à démonter et à remonter les rouages d'une œuvre, à dévisser les pièces formant la structure d'une exhalaison composée, et dans cet exercice, son odorat était parvenu à la sûreté d'une touche presque impeccable. De même qu'un marchand de vin reconnaît le cru dont il hume une goutte, qu'un vendeur de houblon, dès qu'il flaire un sac, détermine aussitôt sa valeur exacte, qu'un négociant chinois peut immédiatement révéler l'origine des thés qu'il sent, dire dans quelle ferme des monts Boés, dans quel couvent bouddhique il a été cultivé, l'époque où ses feuilles ont été cueillies, préciser le degré de torréfaction, l'influence qu'il a subie dans le voisinage de la fleur de prunier, de la glaïa, de l'oléa flagrans, de tous ces parfums qui servent à modifier sa nature, à y ajouter un rehaut inattendu, à introduire dans son fumet un peu sec, un relent de fleurs lointaines et fraîches. De même aussi, des essaintes pouvaient, en respirant un soupçon d'odeur, vous raconter aussitôt les doses de son mélange, expliquer la psychologie de sa mixture, presque citer le nom de l'artiste qu'il avait écrit et lui avait imprimé la marque personnelle de son style. Il va de soi qu'il possédait la collection de tous les produits employés par les parfumeurs. Il avait même du véritable baume de la Mecque, ce baume si rare qui ne se récolte que dans certaines parties de l'Arabie pétrée et dont le monopole appartient au grand seigneur. Assis maintenant dans son cabinet de toilette devant sa table, il songeait à créer un nouveau bouquet et il était pris de ce moment d'hésitation bien connu des écrivains qui, après des mois de repos, s'apprêtent à recommencer une nouvelle œuvre. Ainsi que Balzac, que hantait l'impérieux besoin de noircir beaucoup de papier pour se mettre en train, des essaintes reconnut la nécessité de se refaire auparavant la main par quelques travaux sans importance. Et voulant fabriquer de l'héliotrope, il soupesa des flacons d'amandes et de vanille, puis il changea dîner et se résolut à aborder le point de senteur. Les expressions, les procédés lui échappaient. Il tâtonna. En somme, dans la flagrance de cette fleur, l'oranger domine. Il tenta de plusieurs combinaisons et il finit par atteindre le ton juste en joignant à l'oranger de la tubéreuse et de la rose qu'il lia par une goutte de vanille. Les incertitudes se dissipèrent. Une petite fièvre l'agita. Il fut prêt au travail. Il composa encore du thé en mélangeant de la cassie et de l'iris. Puis, sûr de lui, il se détermina à marcher de l'avant, à plaquer une phrase fulminante dont le hautain fracas effondrerait le chuchotement de cette astucieuse frangipane qui se faufilait encore dans la pièce. Il mania l'ambre, le musc tonquin aux éclats terribles, le patchouli, le plus âcre des parfums végétaux, et dont la fleur à l'état brut dégage une rebugle de moisie et de mouille. Quoi qu'il fît, la hantise du XVIIIe siècle l'obséda. Les robes à paniers, les falbalas, tournèrent devant ses yeux. Des souvenirs des Vénus de Boucher, tout en chair, sans os, bourrées de coton rose, s'installèrent sur ses murs. Des rappels du roman de Thémidor, de l'exquise rosette retroussée dans un désespoir couleur feu, le poursuivirent. Furieux, il se leva et, afin de se libérer, il renifla de toutes ses forces cette pure essence de spikanard, si chère aux Orientaux et si désagréable aux Européens, à cause de son relent trop prononcé de valériane. Il demeura étourdi sous la violence de ce choc. Comme pilé par un coup de marteau, les filigranes de la délicate odeur disparurent, et il profita de ce temps de répit pour échapper au siècle défunt, aux vapeurs surannées, pour entrer, ainsi qu'il le faisait jadis, dans des œuvres moins restreintes et plus neuves. Il avait autrefois aimé à se bercer d'accords en parfumerie. Il usait d'effets analogues à ceux des poètes, employait en quelque sorte l'admirable ordonnance de certaines pièces de Baudelaire, telles que l'Irréparable et le Balcon, où le dernier des cinq vers qui composent la strophe est l'écho du premier et revient ainsi qu'un refrain noyer l'âme dans des infinis de mélancolie et de langueur. Il s'égarait dans les songes qu'évoquaient pour lui ces stances aromatiques, ramené soudain à son point de départ, au motif de sa méditation, par le retour du thème initial, reparaissant à des intervalles ménagés dans l'odorante orchestration du poème. Actuellement, il voulut vagabonder dans un surprenant et variable paysage, et il débuta par une phrase sonore, ample, ouvrant tout d'un coup une échappée de campagne immense. Avec ses vaporisateurs, il injecta dans la pièce une essence formée d'ambroisie, de lavande de Mitcham, de pois de senteur, de bouquet, une essence qui, lorsqu'elle est distillée par un artiste, mérite le nom qu'on lui décerne d'extrait de pré fleuri. Puis dans ce pré, il introduisit une précise fusion de tubéreuses, de fleurs d'oranger et d'amandes, et aussitôt d'artificiels lilas naquirent, tandis que des tilleuls s'éventèrent, rabattant sur le sol leurs pâles émanations que simulait l'extrait du tilia de Londres. Ce décor posé en quelques grandes lignes, fuyant à peine de vue sous ses yeux fermés, il insuffla une légère pluie d'essences humaines et quasi félines, sentant la jupe annonçant la femme poudrée et fardée, le stéphanotis, le yapana, le poponax, le chypre, le champaka, le sarcantus, sur lesquels il juxtaposa un soupçon de seringa, afin de donner dans la vie factice du maquillage qu'il dégageait un feur peinturel de rire en sueur de joie qui se démène au plein soleil. Ensuite, il laissa par un ventilateur s'échapper ses ondes odorantes, conservant seulement la campagne qu'il renouvela et dont il força la dose pour l'obliger à revenir ainsi qu'une ritournelle dans ses strophes. Les femmes s'étaient peu à peu évanouies, la campagne était devenue déserte. Alors, sur l'horizon enchanté, des usines se dressèrent, dont les formidables cheminées brûlaient à leur sommet comme des bois de ponche. Un souffle de fabrique de produits chimiques passait maintenant dans la brise qu'il soulevait avec des éventails, et la nature exhalait encore dans cette purulence de l'air ses doux effluves. Des essaintes maniaient, échauffaient entre ses doigts une boulette de styrax, et une très bizarre odeur montait dans la pièce, une odeur tout à la fois répugnante et exquise, tenant de la délicieuse senteur de la jonquille et de l'immonde puanteur de la gutta-percha et de l'huile de houille. Il se désinfecta les mains, inséra en une boîte hermétiquement close sa résine, et les fabriques disparurent à leur tour. Alors, il darda parmi les vapeurs ravivées des tilleuls et des prés quelques gouttes de New Mowney, et au milieu du site magique momentanément dépouillé de ses lilas, des gerbes de foin s'élevèrent, amenant une saison nouvelle, épandant leur fine affluence dans l'été de ses senteurs. Enfin, quand il eut assez savouré ce spectacle, il dispersa précipitamment des parfums exotiques, épuisa ses vaporisateurs, accéléra ses esprits concentrés, lâcha bride à tous ses baumes, et dans la touffeur exaspérée de la pièce, éclata une nature démente et sublimée, forçant ses haleines, chargeant d'alcool à en délire une artificielle brise, une nature pas vraie et charmante, toute paradoxale, réunissant les piments des tropiques, les souffles poivrés du santal de la Chine et de l'hédiosmia de la Jamaïque, aux odeurs françaises du jasmin, de l'aubépine et de la verveine, poussant en dépit des saisons et des climats des arbres d'essences diverses, des fleurs aux couleurs et aux flagrances les plus opposées, créant par la fonte et le heurt de tous ces tons un parfum général, innommé, imprévu, étrange, dans lequel reparaissait, comme un obstiné refrain, la phrase décorative du commencement, l'odeur du grand pré éventé par les lilas et les tilleuls. Tout à coup, une douleur aiguë le perça. Il lui sembla qu'un vilebrequin lui forait les tempes. Il ouvrit les yeux, se retrouva au milieu de son cabinet de toilette, assis devant sa table. Péniblement, il marcha, abasourdi, vers la croisée qu'il entrebâilla. Une bouffée d'air rasséréna l'étouffante atmosphère qui l'enveloppait. Il se promena de long en large pour affermir ses jambes, alla et vint, regardant le plafond où des crabes et des algues poudrées de sel s'enlevaient en relief sur un fond grenu aussi blond que le sable d'une plage. Un décor pareil revêtait les plinthes, bordant les cloisons tapissées de crêpes japonais, vert d'eau, un peu chiffonnées, simulant le frisillis d'une rivière que le vent vide, et dans ce léger courant nageait le pétale d'une rose, autour duquel tournoyait une nuée de petits poissons dessinés en deux traits d'encre. Mais ses paupières demeuraient lourdes. Il cessa d'arpenter le court espace compris entre le baptistère et la baignoire, et il s'appuya sur la rampe de la fenêtre. Son étourdissement cessa. Il reboucha soigneusement les fioles, et il mit à profit cette occasion pour remédier au désordre de ses maquillages. Il n'y avait point touché depuis son arrivée à Fontenay, et il s'étonna presque maintenant de revoir cette collection naguère visitée par tant de femmes. Les uns sur les autres, des flacons et des pots s'entassaient. Ici, une boîte en porcelaine de la famille verte contenait le chlouda, cette merveilleuse crème blanche qui, une fois étendue sur les joues, passe sous l'influence de l'air au rose tendre, puis à un incarnat si réel qu'il procure l'illusion vraiment exacte d'une peau colorée de sang. Là, des lacs incrustés de burgos renfermaient de l'or japonais et du vert d'Athènes, couleur d'algues de cantharides, des ors et des verts, qui se transmuent en une poudre profonde dès qu'on les mouille. Près de peaux pleins de pattes d'aveline, de serki du harem, d'émulsines aux lys de cachemire, de lotion d'eau de fraise et de sureau pour le teint, et près de petites bouteilles remplies de solution d'encre de Chine et d'eau de rose à l'usage des yeux, des instruments en ivoire, en nacre, en acier, en argent, s'étalaient éparpillés avec des brosses en luzerne pour les gencives. Des pinces, des ciseaux, des strigiles, des estompes, des crépons et des houppes, des grattes d'eau, des mouches et des limes. Il manipulait tout cet attirail, autrefois acheté sur les instances d'une maîtresse qui se pâmait sous l'influence de certains aromates et de certains baumes, une femme détraquée et nerveuse, aimant à faire macérer la pointe de ses seins dans les senteurs, mais éprouvant en somme une délicieuse et accablante extase que lorsqu'on lui ratissait la tête avec un peigne ou qu'elle pouvait humer au milieu des caresses l'odeur de la suie, du plâtre des maisons en construction, par les temps de pluie ou de la poussière mouchetée par de grosses gouttes d'orage pendant l'été. Il rumina ses souvenirs, et une après-midi écoulée à Pantin par désœuvrement, par curiosité, en compagnie de cette femme, chez l'une de ses sœurs, lui revint, remuant en lui un monde oublié de vieilles idées et d'anciens parfums. Tandis que les deux femmes jacassaient et se montraient leurs robes, il s'était approché de la fenêtre et, au travers des vitrines poudreuses, il avait vu la rue pleine de boue s'étendre et entendu ses pavés bruire sous le coup répété des galoches battant les mares. Cette scène déjà lointaine se présenta subitement, avec une vivacité singulière. Pantin était là, devant lui, animé, vivant, dans cette eau verte et comme morte de la glace margée de lune, où ses yeux inconscients plongeaient. Une hallucination l'emporta loin de Fontenay. Le miroir lui répercuta en même temps que la rue les réflexions qu'elle avait autrefois fait naître, et abîmées dans un songe, il se répéta cette ingénieuse, mélancolique et consolante Antienne qu'il avait jadis notée dès son retour dans Paris. Oui, le temps des grandes pluies est venu. Voilà quelle gargouille dégobille en chantant sous les trottoirs, et que les fumiers marinent dans des flaques qu'emplissent de leur café au lait les bols creusés dans le macadam. Partout pour l'humble passant, les rince-pieds fonctionnent. Sous le ciel bas, dans l'air mou, les murs des maisons ont des sueurs froides et leurs soupiraux fétides. La dégoûtation de l'existence s'accentue et le spleen écrase. Les semailles d'ordures que chacun a dans l'âme éclosent. Des besoins de sales ribotes agitent les gens austères et dans le cerveau des gens considérés, des désirs de forçats vont naître. Et pourtant, je me chauffe devant un grand feu, et d'une corbeille de fleurs épanouie sur la table se dégage une exhalaison de benjoin, de géranium et de vétiver qui remplit la chambre. En plein mois de novembre, à Pantin, rue de Paris, le printemps persiste, et voici que je ris, à part moi, des familles craintives qui, afin d'éviter les approches du froid, fuite à toute vapeur vers Antibes ou vers Cannes. La clémente nature n'est pour rien dans cet extraordinaire phénomène. C'est à l'industrie seule, il faut bien le dire, que Pantin est redevable de cette saison factice. En effet, ces fleurs sont en taffetas, montées sur du fil d'arcane et de senteurs premières filtrent par les joints de la fenêtre, exhaler des usines du voisinage, des parfumeries de Pinot et de Saint-James. Pour les artistes usés par les durs labeurs des ateliers, pour les petits employés trop souvent pairs, l'illusion d'un peu de bonheur est, grâce à ces commerçants, possible. Puis de ce fabuleux subterfuge d'une campagne, une médication intelligente peut sortir. Les viveurs poitrinaires qu'on exporte dans le midi meurent, achevés par la rupture de leurs habitudes, par la nostalgie des excès parisiens qui les ont vaincus. Ici, sous un faux climat, aidés par des bouches de poils, les souvenirs libertins renaîtront très doux avec les languissantes émanations féminines évaporées par les fabriques. Au mortel ennui de la vie provinciale, le médecin peut, par cette supercherie, substituer platoniquement pour son malade l'atmosphère des boudoirs de Paris, des filles. Le plus souvent, il suffira pour consommer la cure que le sujet ait l'imagination un peu fertile. Puisque, par le temps qui court, il n'existe plus de substance saine, puisque le vin qu'on boit et que la liberté qu'on proclame sont frelatés et dérisoires, puisqu'il faut enfin une singulière dose de bonne volonté pour croire que les classes dirigeantes sont respectables et que les classes domestiquées sont dignes d'être soulagées ou plaintes, il ne me semble, conclut des Essaintes, ni plus ridicule ni plus fou de demander à mon prochain une somme d'illusions à peine équivalente à celle qu'il dépense dans des buts imbéciles chaque jour pour se figurer que la ville de Pantin est une Nice artificielle, une Menton factice. Tout cela n'empêche pas, fit-il, arraché à ses réflexions par une défaillance de tout son corps, qu'il va falloir me défier de ces délicieux et abominables exercices qui m'écrasent. Il soupira. Allons, encore des plaisirs à modérer et des précautions à prendre. Et il se réfugia dans son cabinet de travail, pensant échapper plus facilement ainsi à la hantise de ses parfums. Il ouvrit la croisée toute large, heureux de prendre un bain d'air, mais soudain il lui parut que la brise soufflait un vague montant d'essence de bergamote avec laquelle se coalisaient de l'esprit de jasmin, de cassis et de l'eau de rose. Il haleta, se demandant s'il n'était point décidément sous le joug d'une de ces possessions qu'on exorcisait au Moyen-Âge. L'odeur changea et se transforma tout en persistant. Une indécise senteur de teinture de tolu, de baume du Pérou, de safran, soudée par quelques gouttes d'ambre et de musc, s'élevait maintenant du village couché au bas de la côte, et subitement la métamorphose s'opéra. Ses bribes éparses se relièrent, et à nouveau la frangipane, dont son odorat avait perçu les éléments et préparé l'analyse, fusa de la vallée de Fontenay jusqu'au fort, assaillant ses narines excédées, ébranlant encore ses nerfs rompus, le jetant dans une telle prostration qu'il s'affaissa évanoui, presque mourant, sur la barre d'appui de la fenêtre. Chapitre 11. Les domestiques effrayés s'empressèrent d'aller chercher le médecin de Fontenay, qui ne comprit absolument rien à l'état de Des Esseintes. Il bafouilla quelques termes médicaux, tâta le pouls, examina la langue du malade, tenta, mais en vain, de le faire parler, ordonna des calmants et du repos, promit de revenir le lendemain, et, sur un signe négatif de Des Esseintes, qui retrouva assez de force pour improuver le zèle de ses domestiques et congédier cet intrus, il partit et s'en fut raconté par tout le village les excentricités de cette maison dont l'ameublement l'avait positivement frappé de stupeur et gelé sur place. Au grand étonnement des serviteurs qui n'osaient plus bouger de l'office, leur maître se rétablit en quelques jours et ils le surprirent tambourinant sur les vitres, regardant d'un air inquiet le ciel. Une après-midi, les timbres sonnèrent des appels brefs, et Des Esseintes prescrivit qu'on lui apprêtât ses malles pour un long voyage. Tandis que l'homme et la femme choisissaient sur ses indications les objets utiles à emporter, il arpentait fiévreusement la cabine de la salle à manger, consultait les heures des paquebots, parcourait son cabinet de travail où il continuait à scruter les nuages d'un air tout à la fois impatient et satisfait. Le temps était depuis une semaine déjà atroce. Les fleuves de suie roulaient sans discontinuer au travers des plaines grises du ciel, des blocs de nuées pareils à des rocs déracinés d'un sol. Par instants, des ondées crevaient et engloutissaient la vallée sous des torrents de pluie. Ce jour-là, le firmament avait changé d'aspect. Les flots d'encre s'étaient volatilisés et taris, les aspérités des nuages s'étaient fondues, le ciel était uniformément plat, couvert d'une taie saumâtre. Peu à peu, cette taie parut descendre, une brume d'eau enveloppa la campagne. La pluie ne croula plus par cataracte, ainsi que la veille, mais elle tomba sans relâche, fine, pénétrante, aiguë, délayant les allées, gâchant les routes, joignant avec ses fils innombrables la terre au ciel. La lumière se brouilla, un jour livide éclaira le village, maintenant transformé en un lac de boue, pointillé par les aiguilles de l'eau qui piquait de gouttes de vif argent le liquide fange des flaques, et dans la désolation de la nature, toutes les couleurs se fanèrent, laissant seules les toits luire sur les tons éteints des murs. « Quel temps !» soupira le vieux domestique, en déposant sur une chaise les vêtements que réclamait son maître, un complet jadis commandé à Londres. Pour toute réponse, Des Esseintes se frotta les mains et s'installa devant une bibliothèque vitrée où un jeu de chaussettes de soie était disposé en éventail. Il hésitait sur la nuance, puis rapidement, considérant la tristesse du jour, le camaïeu morose de ses habits, songeant au but à atteindre, il choisit une paire de soie feuilles mortes, les enfila rapidement, se chaussa de brodequins agrafes et à bout découpé, revêtit le complet gris-souris quadrillé de gris lave et pointillé de martre, se coiffa d'un petit melon, s'enveloppa d'un macfarlane bleu lin et, suivi du domestique qui pliait sous le poids d'une malle, d'une valise à soufflet, d'un sac de cuir, d'un carton à chapeau, d'une couverture de voyage, renfermant des parapluies et des cannes, il gagna la gare. Là, il déclara au domestique qu'il ne pouvait fixer la date de son retour, qu'il reviendrait dans un an, dans un mois, dans une semaine, plus tôt peut-être, ordonna que rien ne fût changé de place au logis, remit l'approximative somme nécessaire à l'entretien du ménage pendant son absence, et il monta en wagon, laissant le vieillard ahuri, bras ballants et bouche béante, derrière la barrière où s'ébranlait le train. Il était seul dans son compartiment, une campagne indécise, sale, vue telle qu'au travers d'un aquarium d'eau trouble, fuyait à toute volée derrière le convoi que cinglait la pluie. Plongé dans ses réflexions, des essaintes ferma les yeux. Une fois de plus, cette solitude si ardemment enviée et enfin acquise avait abouti à une détresse affreuse. Ce silence qui lui était autrefois apparu comme une compensation des sottises écoutées pendant des ans lui pesait maintenant d'un poids insoutenable. Un matin, il s'était réveillé, agité ainsi qu'un prisonnier mis en cellule. Ses lèvres énervées remuaient pour articuler des sons, des larmes lui montaient aux yeux, il étouffait, de même qu'un homme qui aurait sangloté pendant des heures. Dévoré du désir de marcher, de regarder une figure humaine, de parler avec un autre être, de se mêler à la vie commune, il en vint à retenir ses domestiques, appelés sous un prétexte. Mais la conversation était impossible. Outre que ces vieilles gens, employés par des années de silence et des habitudes de garde malade, étaient presque muets, la distance à laquelle les avaient toujours tenus des esseintes n'était point faite pour les engager à desserrer les dents. D'ailleurs, ils possédaient des cerveaux inertes et étaient incapables de répondre autrement que par des monosyllabes aux questions qu'on leur posait. Il ne put donc se procurer aucune ressource, aucun soulagement près d'eux. Mais un nouveau phénomène se produisit. La lecture de Dickens, qu'il avait naguère consommée pour s'apaiser les nerfs, et qui n'avait produit que des effets contraires aux effets hygiéniques qu'il espérait, commença lentement à agir dans un sens inattendu, déterminant des visions de l'existence anglaise qu'il ruminait pendant des heures. Peu à peu, dans ses contemplations fictives, s'insinuèrent des idées de réalité précise, de voyages accomplis, de rêves vérifiés, sur lesquels se greffa l'envie d'éprouver des impressions neuves et d'échapper ainsi aux épuisantes débauches de l'esprit s'étourdissant à moudre à vide. Cet abominable temps de brouillard et de pluie aidait encore à ses pensées en appuyant les souvenirs de ses lectures, en lui mettant la constante image sous les yeux d'un pays de brume et de boue, en empêchant ses désirs de dévier de leur point de départ, de s'écarter de leur source. Il n'y tint plus et brusquement, il s'était décidé un jour. Sa hâte fut telle qu'il prit la fuite bien avant l'heure, voulant se dérober au présent, se sentir bousculé dans un brouhaha de rue, dans un vacarme de foule et de gare. « Je respire, » se disait-il, au moment où le convoi ralentissait sa valse et s'arrêtait dans la rotonde du débarcadère de Sceaux, en rythmant ses dernières pirouettes par le fracas saccadé des plaques tournantes. Une fois au bout d'enfer dans la rue, il est là un cocher, jouissant à être ainsi empêtré avec ses malles et ses couvertures. Moyennant la promesse d'un copieux pourboire, il s'entendit avec l'homme au pantalon noisette et au gilet rouge. « À l'heure, fit-il, et rue de Rivoli, vous vous arrêterez devant le Kalinianis Messenger, car il songeait à acheter, avant son départ, un Guy de Bedebaker ou Murray de Londres. » La voiture s'ébranla lourdement, soulevant autour de ses roues des cerceaux de crottes. On naviguait en plein marécage. Sous le ciel gris qui semblait s'appuyer sur le toit des maisons, les murailles ruisselaient du haut en bas, les gouttières débordaient, les pavés étaient enduits d'une boue de pain d'épices dans laquelle les passants glissaient sur les trottoirs que raflaient les omnibus. Des gens tassés s'arrêtaient, des femmes retroussées jusqu'aux genoux, courbées sous des parapluies, s'aplatissaient pour éviter des éclaboussures contre les boutiques. La pluie entrait en diagonale par les portières. Des essaims durent relever les glaces que l'eau raya de ses cannelures, tandis que des gouttes de fange rayonnaient comme un feu d'artifice de tous les côtés du fiacre. Au bruit monotone des sacs de poids secoués sur sa tête par l'ondée dégoulinant sur les malles et sur le couvercle de la voiture, des Essaintes rêvaient à son voyage. C'était déjà un acompte de l'Angleterre qu'il prenait à Paris par cet affreux temps. Un Londres pluvieux, colossal, immense, puant la fonte échauffée et la suie, fumant sans relâche dans la brume, se déroulait maintenant devant ses yeux. Puis des enfilades de docks s'étendaient à perte de vue, pleins de grues, de cabestans, de ballots, grouillant d'hommes perchés sur des mâts, à califourchons sur des vergues, alors que, sur les quais, des myriades d'autres hommes étaient penchés, le derrière en l'air, sur des barriques qu'ils poussaient dans des caves. Tout cela s'agitait sur des rives, dans des entrepôts gigantesques, baignés par l'eau teigneuse et sourde d'une imaginaire tamise, dans une futaie de mâts, dans une forêt de poutres, crevant les nuées blafardes du firmament, pendant que des trains filaient à toute vapeur dans le ciel et que d'autres roulaient dans les égouts, éructant des cris affreux, vomissant des flots de fumée par des bouches de puits, que par tous les boulevards, par toutes les rues, où éclataient dans un éternel crépuscule les monstrueuses et voyantes infamies de la réclame, des flots de voitures coulaient entre des colonnes de gens, silencieux, affairés, les yeux en avant, les coudes au corps. Des Essaintes frissonnaient délicieusement, à se sentir confondus dans ce terrible monde de négociants, dans cet isolant brouillard, dans cette incessante activité, dans cet impitoyable engrenage broyant des millions de déshérités que les philanthropes excitaient en guise de consolation à réciter des versets et à chanter les psaumes. Puis la vision s'éteignit brusquement avec un chaos du fiacre qui le fit rebondir sur la banquette. Il regarda par les portières, la nuit était venue. Les becs de gaz clignotaient au milieu d'un halo jaunâtre en pleine brume. Des rubans de feu nageaient dans des mares et semblaient tourner autour des roues des voitures qui sautaient dans de la flamme liquide et sale. Il tenta de se reconnaître, aperçut le carrousel et subitement, sans motif, peut-être par le simple contre-coup de la chute qu'il faisait du haut d'espace fin, sa pensée rétrograda jusqu'au souvenir d'un incident trivial. Il se rappela que le domestique avait négligé de mettre, tandis qu'il le regardait préparer ses malles, une brosse à dents parmi les ustensiles de son nécessaire de toilette. Alors il passa en revue la liste des objets empaquetés. Tous avaient été rangés dans sa valise, mais la contrariété d'avoir omis cette brosse persista jusqu'à ce que le cocher, en s'arrêtant, rompit la chaîne de ses réminiscences et de ses regrets. Il était dans la rue de Rivoli, devant le Kalinyansk Messenger. Séparé par une porte au verre dépoli, couvert d'inscriptions et muni de passe-partout, encadrant des découpures de journaux et des bandes azurées de télégrammes, deux grandes vitrines regorgeaient d'albums et de livres. Il s'approcha, attiré par la vue de ces cartonnages en papier bleu perruquier et vert chou gaufré, sur toutes les coutures de ramages d'argent et d'or, de ces couvertures en toile couleur carmélite, poireaux, cacadois, groseilles estampées au fer froid, sur les plats et le dos de filets noirs. Tout cela avait une touche anti-parisienne, une tournure mercantile, plus brutale et pourtant moins vile que celle des reliures de Kaamelott en France. Ça et là, au milieu d'albums ouverts, reproduisant des scènes humoristiques de Dumouriez et de John Leech, ou lançant au travers de plaines en chromo les différentes délirantes cavalcades de Caldecott, quelques romans français apparaissaient, mêlant à ces verjus de teintes des vulgarités bénignes et satisfaites. Il finit par s'arracher à cette contemplation, poussa la porte, pénétra dans une vaste bibliothèque pleine de monde. Des étrangères assises dépliaient des cartes et baragouinaient en des langues inconnues des remarques. Un commis lui apporta toute une collection de guides à son tour. Il s'assit, retournant ses livres dont les flexibles cartonnages pliaient entre ses doigts. Il les parcourut, s'arrêta sur une page du Baedeker, décrivant les musées de Londres. Il s'intéressait aux détails laconiques et précis du guide, mais son attention dévia de l'ancienne peinture anglaise sur la nouvelle qui le sollicitait davantage. Il se rappelait certains spécimens qu'il avait vus dans les expositions internationales, et il songeait qu'il les reverrait peut-être à Londres. Des tableaux de Millet, la veillée de Sainte-Agnès, d'un vert argenté si lunaire. Des tableaux de Waltz, aux couleurs étranges, bariolés de gomme-gutte et d'indigo. Des tableaux esquissés par un Gustave Moreau malade, brossés par un Michel-Ange anémié et retouchés par un Raphaël noyé dans le bleu. Entre autres toiles, il se rappelait une dénonciation de Caïn, une Ida et des Èves, où dans le singulier et mystérieux amalgame de ces trois maîtres sourdait la personnalité tout à la fois quintessentiée et brute d'un anglais docte et rêveur tourmenté par des hantises de tons atroces. Toutes ces toiles assaillaient en foule sa mémoire. Le commis, étonné par ce client qui s'oubliait devant une table, lui demanda sur lequel de ses guides il fixait son choix. Des Esseintes demeura ébaubi, puis il s'excusa, fit en plainte d'un Baedeker et franchit la porte. L'humidité le glaça, le vent soufflait de côté et cinglait les arcades de ses fouets de pluie. « Allez, là » fit-il au cocher en désignant du doigt au bout d'une galerie un magasin qui formait l'angle de la rue de Rivoli et de la rue de Castiglione et rassemblait avec ses carreaux blanchâtres éclairés en dedans à une gigantesque veilleuse brûlant dans le malaise de ce brouillard, dans la misère de ce temps malade. C'était la bodega. Des Esseintes s'égara dans une grande salle qui s'allongeait en couloir, soutenue par des piliers de fonte, bardés de chaque côté de ses murs de hautes futailles posées tout debout sur des chantiers. Cerclée de fer, la panse garnie de créneaux de bois simulant un râtelier de pipe dans l'écran duquel pendaient des vers en forme de tulipe, le pied en l'air, le bas-ventre troué et emmanché d'une cannelle de grès, ses barriques armoriées d'un blason royal, étalaient sur des étiquettes en couleur le nom de leur cru, la contenance de leur flan, le prix de leur vin, acheté à la pièce, à la bouteille ou dégusté au verre. Dans l'allée restée libre entre ces rangées de tonneaux, sous les flammes du gaz qui bourdonnait au bec d'un affreux lustre peint en gris fer, des tables couvertes de corbeilles de biscuits palmer, de gâteaux salés secs, d'assiettes où s'entassaient des minces pies et des sandwichs cachants sous leurs fades enveloppes d'ardents sinapismes à la moutarde, se succédaient entre une haie de chaises jusqu'au fond de cette cave encore bardée de nouveaux muis, portant sur leur tête de petits barils couchés sur le flanc, estampillés de titres gravés au fer chaud dans le chêne. Un fumet d'alcool saisit des esseintes lorsqu'il prit place dans cette salle où sommeillait le puissant vin. Il regarda autour de lui. Ici, les foudres s'alignaient, détaillant toute la série des porteaux, des vins âpres ou fruiteux, couleur d'acajou ou d'amarante, distingués par de laudatives épithètes Old Port, Light Delicate, Cocksbird Very Fine, Magnificent Old Regina, et là, bombant leurs formidables abdomens, se pressaient côte à côte des fûts énormes, enfermant le vin martial de l'Espagne, le Jerez et ses dérivés, couleur de topaz brûlé ou cru, le Sanlúcar, le Pasto, la Peldray, l'Oloroso, la Montilla, sucré ou sec. La cave était pleine. Accoudé sur un coin de table, des esseintes attendaient le verre de Porto commandé à un gentleman, en train de déboucher d'explosifs sodas contenus dans des bouteilles ovales, qui rappelaient, en les exagérant, ces capsules de gélatine et de gluten employées par les pharmacies pour masquer le goût de certains remèdes. Tout autour de lui, des Anglais foisonnaient. Des dégaines de pâles clergymen, vêtus de noir de la tête aux pieds, avec des chapeaux mous, des souliers lacés, des redingotes interminables, constellées sur la poitrine de petits boutons, des mentons ras, des lunettes rondes, des cheveux graisseux et plats. Des trognes de tripiers et des mufles de dogues, avec des coups apoplectiques, des oreilles comme des tomates, des joues vineuses, des yeux injectés et idiots, des colliers de barbe pareils à ceux de quelques grands singes, et plus loin, au bout du chai, un long dépendant d'andouille aux cheveux d'étoupe, au menton garni de poils blancs, ainsi qu'un fond d'artichaut, déchiffrait au travers d'un microscope les minuscules romains d'un journal anglais. En face, une sorte de commodore américain, bouleau et trapu, les chairs boucanées et le nez en bulbe, s'endormait, regardant, un cigare planté dans le trou velu de sa bouche, des cadres pendus au mur, renfermant des annonces de vin de champagne, les marques de Perrier, de Roederer, d'Elsick et de Mumm, et une tête encapuchonnée de moine, avec le nom écrit en caractère gothique de Dom Pérignon à Reims. Un certain amollissement enveloppa des esseintes dans cette atmosphère de corps de garde. Étourdi par les bavardages des Anglais causant entre eux, il rêvassait, évoquant devant la pourpre des porteaux remplissant les verres les créatures de Dickens qui aiment tant à les boire, peuplant imaginairement la cave de personnages nouveaux, voyant ici les cheveux blancs et le teint enflammé de M. Wickfield, là la mine flegmatique et rusée et l'œil implacable de M. Tulkinghorn, le funèbre avoué de Bleak House. Positivement, tout se détachait de sa mémoire, s'installait dans la bodega, avec leurs faits et leurs gestes. Ces souvenirs, ravivés par de récentes lectures, atteignaient une précision inouïe. La ville du romancier, la maison bien éclairée, bien chauffée, bien servie, bien close, les bouteilles lentement versées par la petite Doris, par Dora Copperfield, par la sœur de Tom Pinch, lui apparurent, naviguant ainsi qu'une arche tiède dans un déluge de fange et de suie. Il s'acagnarda dans ce Londres fictif, heureux d'être à l'abri, écoutant naviguer sur la Tamise les remorqueurs qui poussaient de sinistres hurlements derrière les Tuileries près du pont. Son verre était vide malgré la vapeur éparse dans cette cave encore échauffée par les fumigations des cisards et des pipes. Il éprouvait, en retombant dans la réalité, par ce temps d'humidité fétide, un petit frisson. Il demanda un verre d'amontillado, mais alors, devant ce vin sec et pâle, les lénitives histoires, les douces malvacées de l'auteur anglais se défeuillèrent et les impitoyables révulsifs, les douloureux rubéfiants d'Edgar Poe surgirent. Le froid cauchemar de la barrique d'amontillado, de l'homme muré dans un souterrain, l'assaillit. Les faces bénévoles et communes des buveurs américains et anglais qui occupaient la salle lui parurent reflétées d'involontaires et d'atroces pensées, d'instinctifs et d'odieux desseins. Puis il s'aperçut qu'il s'esselait, que l'heure du dîner était proche. Il paya, s'arracha de sa chaise et gagna, tout étourdi, la porte. Il reçut un soufflet mouillé dès qu'il mit les pieds dehors. Inondé par la pluie et par les rafales, les réverbères agitaient leurs petits éventails de flammes, sans éclairer, encore descendu de plusieurs clans, le ciel s'était abaissé jusqu'au ventre des maisons. Des Esseintes considéra les arcades de la rue de Rivoli, noyées dans l'ombre et submergées par l'eau. Et il lui sembla qu'il se tenait dans le morne tunnel creusé sous la Tamise. Des tiraillements d'estomac le rappelèrent à la réalité. Il rejoignit sa voiture, jeta au cocher l'adresse de la taverne de la rue d'Amsterdam, près de la gare, et il consulta sa montre. 7 heures. Il avait juste le temps de dîner, le train ne partait qu'à 8h50, et il comptait sur ses doigts, supputait les heures de la traversée de Dieppe à New Haven, se disant « Si les chiffres de l'indicateur sont exacts, je serai demain, sur le coup de midi et demi, à Londres. » Le fiacre s'arrêta devant la taverne. De nouveau, des Esseintes descendit, et il pénétra dans une longue salle, sans dorure, brune, divisé par des cloisons à mi-corps en une série de compartiments semblables aux boxes des écuries. Dans cette salle, évasée près de la porte, d'abondantes pompes à bière se dressaient sur un comptoir. Près de jambons aussi culottés que de vieux violons, de homards peints au minium, de maquereaux marinés, avec des ronds d'oignons et de carottes crues, des tranches de citron, des bouquets de laurier et de thym, des baies de genièvre et du gros poivre nageant dans une sauce trouble. L'un de ces bocs était vide, il s'en empara, et là un jeune homme en habit noir qui s'inclina en jargonnant des mots incompréhensibles. Pendant que l'on préparait le couvert, des Esseintes contempla ses voisins. De même qu'à la bodega, des insulaires aux yeux faïence, au teint cramoisi, aux airs réfléchis ou rogues, parcouraient les feuilles étrangères. Seulement des femmes sans cavalier dînaient entre elles en tête à tête, de robustes anglaises aux faces de garçons, aux dents larges comme des palettes, aux joues colorées en pommes aux longues mains et aux longs pieds. Elles attaquaient avec une réelle ardeur un rumsteak paille, une viande chaude cuite dans une sauce aux champignons et revêtue de même qu'un pâté d'une croûte. après avoir perdu depuis si longtemps l'appétit, il demeura confondu devant ces gaillardes dont la voracité aiguisa sa faim. Il commanda un possage oxtel, se régala de cette soupe à la queue de bœuf, tout à la fois onctueuse et veloutée, grasse et ferme. Puis il examina la liste des poissons, demanda un haddock, une sorte de merluche fumée qui lui parut louable, et, pris d'une fringale, avoir s'empiffré les autres, il mangea un rosbif aux pommes et s'enfourna deux pintes d'ailes, excité par ce petit goût de vacherie musquée que dégage cette fine et pâle bière. Sa faim se comblait. Il chupota un bout de fromage bleu de Stilton, dont la douceur s'imprégnait d'amertume, picora une tarte à la rhubarbe et, pour varier, étancha sa soif avec le porteur, cette bière noire qui sent le jus de réglisse dépouillé de sucre. Il respirait. Depuis des années, il n'avait et autant baffré et autant bu. Ce changement d'habitude, ce choix de nourriture imprévue et solide, avait tiré l'estomac de son somme. Il s'enfonça dans sa chaise, alluma une cigarette et s'apprêta à déguster sa tasse de café qu'il trempa de gin. La pluie continuait à tomber. Il l'entendait crépiter sur les vitres qui plafonnaient le fond de la pièce et dégouliner en cascade dans les gargouilles. Personne ne bougeait dans la salle. Tous se dorlotaient, ainsi que lui, au sec, devant des petits verres. Les langues se délièrent. Comme presque tous ces Anglais levaient en parlant les yeux en l'air, des essaintes concluent qu'ils s'entretenaient du mauvais temps. Aucun d'eux ne riait et tous étaient vêtus de chevillottes grises, réglées de jaune nankin et de rose de papier buvard. Il jeta un regard ravi sur ses habits, dont la couleur et la coupe ne différaient pas sensiblement de celles des autres, et il éprouva le contentement de ne point détonner dans ce milieu, d'être en quelque sorte et superficiellement naturalisé citoyen de Londres. Puis il eut un sursaut. « Ah, il est hors du train !» se dit-il. Il consulta sa montre. « 8h-10, j'ai encore près d'une demi-heure à rester là. » Et une fois de plus, il songea au projet qu'il avait conçu. Dans sa vie sédentaire, deux pays l'avaient seulement attiré, la Hollande et l'Angleterre. Il avait exaucé le premier de ses souhaits. N'y tenant plus, un beau jour, il avait quitté Paris et visité les villes des Pays-Bas une à une. Somme toute, il était résulté de cruelles désillusions de ce voyage. Il s'était figuré une Hollande, d'après les œuvres de Teniers, de Steen, de Rembrandt et d'Ostad, se façonnant d'avance à son usage d'incomparables juiveries aussi dorées que les cuirs de Cordoue par le soleil, s'imaginant de prodigieuses kermesses, de continuelles ribottes dans les campagnes, s'attendant à cette bonhomie patriarcale, à cette joviale débauche célébrée par les vieux maîtres. Certes, Haarlem et Amsterdam l'avaient séduit. Le peuple non décrassé, vu dans les vraies campagnes, ressemblait bien à celui peint par Van Ostad, avec ses enfants non équarris et taillés à la serpe, et ses commères grasses à l'art, bosselées de gros tétons et de gros ventres. Mais de joies effrénées, d'ivrognerie familiale, point. En résumé, il devait le reconnaître, l'école hollandaise du Louvre l'avait égaré. Elle avait simplement servi de tremplin à ses rêves. Il s'était élancé, avait bondi sur une fausse piste, et erré dans des visions inégalables, ne découvrant nullement sur la terre ce pays magique et réel qu'il espérait, ne voyant point sur des gazons semés de futailles des danses de paysans et de paysannes pleurant de joie, trépignant de bonheur, s'allégeant à force de rire dans leurs jupes et dans leurs chausses. Non, décidément rien de tout cela n'était visible. La Hollande était un pays tel que les autres, qui plus est, un pays nullement primitif, nullement bonhomme, car la religion protestante y sévissait avec ses rigides hypocrisies et ses solennelles raideurs. Ce désenchantement lui revenait. Il consulta de nouveau sa montre. 10 minutes le séparaient encore de l'heure du train. Il est grand temps de demander l'addition et de partir, se dit-il. Il se sentait une lourdeur d'estomac, une pesanteur par tout le corps extrême. Voyons, dit-il, pour se verser du courage, buvons le coup de l'étrier. Et il remplit un verre de brandy tout en réclamant sa note. Un individu en habit noir, une serviette sur le bras, une espèce de majordome au crâne pointu et chauve, à la barbe grisonnante et dure, sans moustache, s'avança, un crayon derrière l'oreille, se posta, une jambe en avant, comme un chanteur, tira de sa poche un calepin et, sans regarder son papier, les yeux fixés sur le plafond, près d'un lustre, inscrivit et compta la dépense. « Voilà, » dit-il, en arrachant la feuille de son calepin, et il la remit à des Essaintes, qui le considéraient curieusement, ainsi qu'un animal rare. « Quel surprenant Jumble, » pensait-il, en contemplant ce flegmatique personnage à qui sa bouche rasée donnait aussi la vague apparence d'un timonier de la marine américaine. À ce moment, le lierre de la taverne s'ouvrit. Des gens entrèrent, apportant avec eux une odeur de chien mouillé, à laquelle se mêla une fumée de houille, rabattue par le vent dans la cuisine, dont la porte sans loquet claqua. Des Essaintes étaient incapables de remuer les jambes. Un doux et tiède anéantissement se glissait par tous ses membres, l'empêchait même d'étendre la main pour allumer un cigare. Il se disait, allons, voyons, debout, il faut filer. Et d'immédiates objections contrariaient ses ordres. À quoi bon bouger, quand on peut voyager si magnifiquement sur une chaise? N'était-il pas à Londres, dont les senteurs, dont l'atmosphère, dont les habitants, dont les pâtures, dont les ustensiles l'environnait? Que pouvait-il donc espérer, sinon de nouvelles désillusions, comme en Hollande? Il n'avait plus que le temps de courir à la gare, et une immense aversion pour le voyage, un impérieux besoin de rester tranquille, s'imposait avec une volonté de plus en plus accusée, de plus en plus tenace. Pensif, il laissa s'écouler les minutes, se coupant ainsi la retraite, se disant « Maintenant, il faudrait se précipiter au guichet, se bousculer au bagage. Oh, quel ennui, quelle corvée ça serait !» Puis, se répétant une fois de plus « En somme, j'ai éprouvé et j'ai vu ce que je voulais éprouver et voir. » « Oh, je suis saturé de vie anglaise depuis mon départ. Il faudrait être fou pour aller perdre par un maladroit déplacement d'impérissables sensations. Enfin, quelle aberration ai-je donc eue pour avoir tenté de renier des idées anciennes, pour avoir condamné les dociles fantasmagories de ma cervelle, pour avoir ainsi qu'un véritable béjaune cru à la nécessité, à la curiosité, à l'intérêt d'une excursion. Oh, tiens, fait-il regardant sa montre. Mais l'heure est venue de rentrer au logis. Cette fois, il se dressa sur ses jambes, sortit, commanda au cocher de le reconduire à la gare de Sceaux, et il revint avec ses malles, ses paquets, ses valises, ses couvertures, ses parapluies et ses cannes à Fontenay, ressentant l'éreintement physique et la fatigue morale d'un homme qui rejoint son chez-soi après un long et périlleux voyage.